Le journal présenté par Hélène Fromanti.
Bonjour à toutes et à tous. Une page qui se tourne au gouvernement après la démission de François de Rugy. Elisabeth Borne, jusqu'alors ministre des Transports, récupère le portefeuille de l'écologie. Elle prend ses fonctions dès ce midi. Pourquoi elle? Pourquoi si vite? Rosalie Lafarge nous explique dans un instant. Et nous verrons aussi que cette nomination inquiète les ONG. Dans ce journal également, la ratification de l'accord sur le CETA. Les députés se prononcent cet après-midi sur ce texte qui n'en finit pas de diviser. La disparition d'un ponte de la littérature italienne, Andrea Camilleri, le père du commissaire Montalbano, nous a quittés à 93 ans. Et puis juste après le journal, dans la grande table en direct d'Avignon, nous allons parler des abeilles, philosophes par nature, puis faire le portrait de la comédienne Yamabas. C'est donc Elisabeth Borne qui s'est assise ce matin en Conseil des ministres dans le fauteuil de ministre de la Transition écologique. C'est elle qui était jusqu'alors ministre des Transports et qui a été expressément nommée hier soir, quelques heures après la démission de François de Rugy, embourbée dans un feuilleton médiatique à base de homards et de champagne. Elisabeth Borne va désormais porter les deux casquettes, écologie et transport. Et alors que la passation de pouvoir doit avoir lieu d'ici une heure sur le perron de l'hôtel de Roquelaure, prenons quelques instants pour revenir sur cette nomination. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Pourquoi l'exécutif, Rosalie, a-t-il porté son dévolu sur Elisabeth Borne?
Eh bien parce qu'il fallait agir vite. La solution en interne était donc la plus simple. À 58 ans, Elisabeth Borne, secrétaire d'État au transport, ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie, connaît les dossiers. Technicienne, exigeante, elle se dit elle-même déterminée à poursuivre le combat essentiel qu'est la transition écologique et solidaire. Mais si lui confier les rênes est une évidence pour la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, ça ne l'est pas pour tout le monde. Surtout que l'ancienne directrice de la RATP, les transports parisiens, conserve, vous l'avez dit, son portefeuille au transport.
Ce qui aurait été très négatif, c'est que les transports soient séparés du ministère de l'écologie et de la solidarité. Donc là, ça reste ensemble. Ça, c'est très important.
Sauf que ça fait peut-être beaucoup pour une seule personne, s'inquiète Mathieu Orphelin, le député écologiste ancien marcheur, était l'invité des matins de France Culture.
Là, on a une équipe de trois ministres resserrés, donc Elisabeth Borne et deux secrétaires d'État. Ça aurait été mieux, évidemment, que l'équipe reste à quatre ou s'élargisse. Enfin, en tout cas, ce sera difficile à trois. L'enjeu pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de renforcer l'écologie. C'est pas d'affaiblir encore plus l'écologie.
Mais rien qu'avec ce choix d'Elisabeth Borne, le gouvernement fait fausse route pour l'opposition. Au regard de sa réforme ferroviaire, l'insoumis François Ruffin doute de la capacité de la ministre à faire prévaloir l'écologie sur l'économie, là où Sébastien Chenu du Rassemblement National prédit simplement la fin de l'écologie dans ce gouvernement.
Rosalie Lafarge, la nomination d'Elisabeth Borne fait donc des remous dans la sphère politique, mais elle préoccupe aussi les ONG. Greenpeace évoque le déclassement du ministère de la Transition écologique. Du côté de la Fondation Nicolas Hulot, Célia Gauthier déplore une malédiction de ce poste. Malédiction qui tient moins à la valse des ministres qu'au non-poids que lui donnent les gouvernements, notamment à l'heure de l'urgence climatique.
La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle sur l'écologie qui, en arrivant à un ministère, pourrait totalement changer la direction des choses. C'est l'ensemble du gouvernement et le président de la République qui doivent placer l'urgence écologique au cœur de leur action. Et ça fait 20-30 ans qu'on en parle et qu'aucun gouvernement n'a réussi à faire ça. Dans la réalité, on continue à faire sur le court terme ce qui cause notre perte à long terme. Pour l'instant, la classe politique n'a pas compris, en tout cas pour une grande partie d'entre elles, qu'il fallait radicalement changer les choses sur le court terme pour pouvoir tout simplement sauvegarder l'humanité. Et donc les ministères de l'écologie, quel que soit l'homme ou la femme à leur tête, eh bien restent impuissants en fait et ne gagnent pas leurs arbitrages. On voit typiquement le ministère de l'économie et des finances gagner beaucoup plus d'arbitrages budgétaires que celui de l'écologie. On pense qu'en nommant un ministre de l'écologie ou une ministre de l'écologie, on a fait le job, on a fait le travail. Évidemment, ça suffit pas.
Elisabeth Borne n'y changera rien.
On peut souhaiter à Elisabeth Borne de changer des choses, mais encore faut-il que l'ensemble du gouvernement et que le Premier ministre et le Président de la République placent l'urgence écologique au cœur de leur action. Ça doit devenir le socle de toutes les décisions politiques qui sont prises de manière beaucoup plus intelligente et pérenne que ce qu'on fait aujourd'hui.
Des propos recueillis par Véronique Rébérotte pour France Culture. C'est dans ce contexte que la majorité affaiblie par cette nouvelle affaire va tenter de faire passer la loi sur le CETA. L'Assemblée nationale doit se prononcer aujourd'hui sur la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Un texte d'un nouveau genre que l'on dit vivant car il introduit une coopération sur le plan réglementaire entre les deux parties. Pour les opposants au CETA, c'est la porte ouverte au nivellement par le bas. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
De quoi parle-t-on précisément ?
Bien, l'idée de cette coopération, c'est de faciliter le commerce et l'investissement en supprimant les obstacles réglementaires jugés non nécessaires. Plusieurs mécanismes sont prévus pour dialoguer et mieux se comprendre, mais le plus problématique, c'est le cinquième mécanisme, celui qui permet une discussion sur les projets de réglementation. On reste sur une base volontaire. À aucun moment, le Canada ne pourra s'opposer à des mesures que voudrait prendre l'Union européenne pour interdire tel ou tel pesticide, par exemple, autorisé au Canada. Mais cette coopération pourra considérablement freiner les velléités réglementaires de l'une ou l'autre partie, de l'avis même de la commission d'experts indépendants qu'avait nommé Emmanuel Macron pour étudier le CETA. Pour faire taire ces critiques, l'UE et le Canada se sont engagés en annexe de l'accord à ne pas abaisser leurs standards sociaux et environnementaux à des fins commerciales ou d'investissement, ce qui permet aux partisans du CETA de dire que non, nous n'aurons pas bientôt du bœuf aux hormones dans nos assiettes. En revanche, l'Union européenne ne pourra pas s'opposer à une demande de dialogue réglementaire du Canada. Or, quels sont les premiers sujets mis sur la table par les Canadiens ? Les OGM et le glyphosate. D'ailleurs, les fédérations professionnelles canadiennes qui soutiennent le CETA ne s'en cachent pas. Pour elles, cet accord est un moyen d'abaisser les normes environnementales européennes pour plus exporter. Alors, l'UE saura-t-elle s'opposer à ces velléités ? Bien, si on a confiance dans les institutions européennes pour mettre les intérêts des citoyens au-dessus des intérêts économiques, on répond oui. Si on n'a pas confiance, on répond non. Et elle est là, la ligne de partage entre opposants du CETA et partisans du CETA.
Merci Marie Viennot. 10 ans après le crash du vol Rio-Paris, 228 morts en juin 2009, le parquet de Paris demande un procès pour Air France. À l'issue de l'enquête, la justice estime que la compagnie aérienne n'a pas suffisamment informé ses pilotes sur la procédure à adopter en cas d'anomalie. À l'inverse, le parquet requiert un non-lieu contre Airbus, faute de charges suffisantes à l'encontre de l'avionneur. Le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif est-il légal ? Alors que la Cour de cassation se prononce aujourd'hui sur cette question épineuse, un rapport sénatorial dresse un état des lieux du fonctionnement des conseils des prud'hommes en France. Un document qui met en lumière de nombreux dysfonctionnements, notamment des délais extrêmement longs avant que n'interviennent les décisions, parfois jusqu'à 2 ans et demi d'attente. Et il préconise donc, ce rapport, une forme de professionnalisation des prud'hommes. Les explications de Stéphane Robert.
De moins en moins d'affaires sont instruites par les prud'hommes en France, moins 43% en l'espace de 10 ans. C'est dû au fait que de plus en plus de conciliations se déroulent entre salariés et employeurs au sein même des entreprises, un phénomène qu'amplifie la récente réforme du Code du travail. Pour autant, de façon paradoxale, les délais d'instruction avant décision augmentent. Ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi, voire 3 ans dans certains cas. Explication Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, co-auteur du rapport sur la justice prud'homale.
Les dossiers les plus conflictuels viennent aujourd'hui devant les conseils des prud'hommes. Et c'est là où on s'aperçoit que les délais de jugement sont beaucoup plus longs parce que les dossiers sont beaucoup plus complexes. C'est pour cela que nous faisons pas mal de recommandations pour que les conseillers prud'homaux puissent se professionnaliser pour tenir les délais.
Pour professionnaliser les conseils de prud'hommes, il faut offrir des formations aux conseillers prud'homaux, leur permettre de revêtir une robe, comme les autres magistrats, pour crédibiliser leurs fonctions, ou encore instaurer un tri préalable entre les dossiers simples et complexes. Par ailleurs, la sénatrice Les Républicains de Seine-Maritime, Agnès Canayer, préconise d'expérimenter, comme en Belgique, un panachage des conseils des prud'hommes avec des professionnels de la justice.
En Belgique, depuis 1967, la Belgique a intégré la question de l'échevinage. C'est-à-dire qu'il y a des magistrats professionnels qui siègent aux côtés de magistrats issus du monde de l'entreprise. Et ce que nous avons vu en Belgique, c'est qu'ils travaillaient ensemble, chacun avec son approche complémentaire et qui donnait naissance à plus de fluidité et une meilleure justice dans l'intérêt du justiciable.
Autre problème que pourrait résoudre une professionnalisation actuellement, les décisions des conseils des prud'hommes sont contestées 2 fois sur 3 alors que c'est moins d'une fois sur cinq dans les autres juridictions.
Stéphane Robert pour France Culture. Les hétérosexuels et les homosexuels bientôt sur un même pied d'égalité en matière de don du sang. Le ministère de la Santé va réduire la période d'abstinence imposée aux personnes homosexuelles pour pouvoir donner leur sang. Le délai va passer de 1 an actuellement à 4 mois au 1er février 2020. Bonjour Wafé Akenich.
Bonjour Hélène.
Il s'agit en fait d'une première étape vers un traitement égal entre homo et hétéro à l'horizon 2022.
Et il aura fallu 5 ans pour que les pouvoirs publics décident de réduire ce temps d'abstinence pour les homosexuels. Alors oui, il n'existe pas aujourd'hui de droit au don du sang, mais les tests VIH pratiqués actuellement sur les potentiels donneurs sont extrêmement fiables. Le virus peut rester dans l'ombre 12 jours seulement après un rapport sexuel. Donc l'Agence sanitaire Santé publique France assure que ce passage de 12 à 4 mois d'abstinence n'augmente pas les risques pour les receveurs. Le gouvernement actuel revient sur une durée fixée par Marisol Touraine en 2016. La ministre de la Santé de l'époque avait ouvert le don du sang aux homosexuels, car entre 83 et 2016, ils n'avaient pas le droit de donner leur sang. Dans les années 80, après les années SIDA et l'affaire du sang contaminé, les gouvernements successifs faisaient preuve de beaucoup de frilosité à l'égard de ceux qu'ils considéraient comme une population à risque. On peut donc parler d'une avancée, puisque jusqu'à présent, les hommes homosexuels devaient s'abstenir de toute relation sexuelle pendant une année s'ils souhaitaient donner leur sang. Pourtant, aujourd'hui, les associations et notamment ACT UP ne se satisfont pas de cette décision. Eux souhaitent que l'on sorte d'une logique stigmatisante qui vise des orientations sexuelles et que l'on s'intéresse plus au comportement sexuel de chaque donneur, homosexuel ou pas.
Merci pour ces précisions, Wafia Kenich. C'est une décision rare par les temps qui courent en Turquie. Le représentant de Reporters sans frontières en Turquie, Erol Onderoglu, accusé de propagande terroriste, a finalement été acquitté. Il était poursuivi pour avoir participé en 2016 à une campagne de solidarité avec un journal kurde et il risquait jusqu'à 14 ans et demi d'emprisonnement. Les défenseurs des droits de l'homme se réjouissent, un soulagement, mais en demi-teinte pour le responsable RSF dans la région, Johan Bir.
Bien sûr, un profond soulagement. Cela dit, un soulagement teinté d'amertume quand même, parce que Erol a passé 3 ans en procès avec ses 2 collègues. Il a quand même passé 10 jours en détention provisoire. C'était une épée de Damoclès qui est restée au-dessus de lui pendant toutes ces années. C'était évidemment une profonde absurdité, une profonde injustice que de traîner en justice Erol, qui a passé toute sa vie à défendre ses collègues et à défendre la liberté de la presse et la démocratie, pour quelque chose d'aussi absurde que la propagande terroriste. Donc de ce point de vue-là, c'est enfin une farce qui arrive à son terme. Elle n'a que trop duré. Mais n'oublions pas que Erol est de nouveau en procès à partir du 7 novembre. Erol fait face à un nouveau procès pour propagande terroriste, cette fois-ci pour avoir affiché sa solidarité avec les universitaires pour la paix, poursuivis par centaines pour avoir signé une pétition pacifiste. Et dans ce nouveau procès, Erol est à nouveau poursuivi avec 12 co-accusés et il risque une nouvelle fois la prison pour propagande terroriste pour n'avoir fait que son devoir en tant que défenseur des droits de l'homme et membre de la société civile turque. Donc Erol n'est pas tiré d'affaire, donc le soulagement est loin d'être complet.
Il était considéré comme le pape du polar et sous sa plume est née l'une des figures du roman policier européen. L'écrivain sicilien Andrea Camilleri est décédé dans un hôpital romain à 93 ans. Après un arrêt cardiaque le mois dernier, le père du commissaire Montalbano était dans un état critique. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, c'est donc toute l'Italie qui est en deuil. Correspondance à Rome signée Mathilde Imberti.
Andrea Camilleri est le commissaire Montalbano, cette figure sicilienne, gourmande, intelligente, solitaire à 16 heures, a nourri des soirées télévisées de millions d'Italiens. Il fait partie de la famille. C'est avec cette série de polars, les gialli, comme on les appelle en Italie, qu'Andrea Camilleri rencontre le succès. 1994, La forme de l'eau est publiée. C'est le premier épisode, le lancement d'un phénomène. Par son écriture unique, mêlant l'italien au parler d'Agrigento, sa province d'origine, Camilleri restitue merveilleusement les couleurs et les sons de la Sicile. À ses yeux, il n'était qu'un artisan.
In tutta sincerità, mi credo un buon artigiano.
En toute sincérité, je pense que je suis un bon artisan de l'écriture. Un bon employé. Quand j'ouvre un livre de Dostoïevski, ou plutôt quand j'ouvrais un livre, maintenant je ne vois plus rien, je mesure la distance stellaire entre un génie et une personne comme moi.
Che esiste tra un genio e uno come me.
Dans une première vie, Andrea Camilleri officie au théâtre où il met en scène Luigi Pirandello, un auteur sicilien comme lui. Il est le premier également à faire découvrir Samuel Beckett à l'Italie. Artiste, Camilleri n'hésitait pas à se faire entendre sur une autre scène plus politique. Il livre des écrits anti-Berlusconi en son temps, craint sans cesse la résurgence du fascisme dans la péninsule. Lui-même naît en 1925 dans une famille mussolinienne. Très jeune, il avait proposé ses services au Duce avant de changer complètement de voie. Il militera pour le Parti communiste. C'est par une formule de Camilleri lui-même que Wikimafia, le site anti-mafia, salue sa disparition. Les jeunes doivent se rebeller, ne me décevez pas. Les messages d'affection continuent d'affluer de tout le pays pour ce grand nom de la Sicile, de l'Italie et de la littérature.
Mathilde Imberti pour France Culture. La météo de votre mercredi, une belle après-midi ensoleillée malgré un ciel voilé et quelques averses parfois orageuses dans la moitié sud. Il fera entre 19 et 35 degrés.